Robert Crumb dans Boomerang, l'immense Robert Crumb. C'est parti, effectivement. Ce qui me sidère au bout du compte avec Donald Trump, c'est moins le personnage ou sa politique que tout ce qu'il produit comme langage. Le sien, évidemment, avec son étrange lexique, vous savez, ses tweets, ses propos pour le moins erratiques, mais surtout celui des autres, toute cette littérature qu'il produit, plus ou moins malgré lui, qu'il s'agisse de tribunes, de pamphlets, de caricatures, il est celui que l'on expose à longueur de journée. Et quand on y pense, c'est une drôle de résistance, cette façon qu'on a de reprendre frénétiquement chacune de ses déclarations, de les gloser, de les sonder, de les épuiser. En réalité, c'est sans doute une façon de se rassurer, on l'explique, on l'analyse, on en fait tour à tour un clown, un archétype ou même un cliché, et l'on est convaincu que ce discours hypertrophié autour de Donald Trump peut symboliquement le tuer. Mais je pense au contraire qu'il n'existe que par ce discours, le sien mais aussi celui des autres, ce qui en fait essentiellement, et c'est passionnant, un être de langage, une voix de papier, de propos rapportés, une somme de signes et de saillies qui colonisent nos journaux, radios, réseaux sociaux, une sorte de verbe déchaîné ou de verbe débridé, ce qui fait que l'ultime résistance, en fin de compte, ce serait peut-être le silence.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue. Dans Boomerang, il y a 19 ans, mon invité d'aujourd'hui nous mettait déjà face à Donald Trump dans un court récit publié dans le magazine Up. Il est à la bande dessinée ce que Kubrick est au cinéma dès la fin des années 60. Il a révolutionné ce qu'on appelle le roman graphique. Maud O'Day, c'est le nom d'un personnage dont les aventures publiées entre 1983 et 1990 sont enfin réunies dans leur intégralité. Bonjour, Robert Crumb.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Je le disais, en 89, je me souviens de planches dans le magazine Up où vous vous dessiniez face à Donald Trump. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous à l'époque ?
J'avais lu ce livre, L'art de la négociation, quand il est paru en 88. Je me souviens pas comment il m'est tombé entre les mains. Et il donnait l'impression, même si plus tard l'auteur, Tony Schwartz, je crois que c'était son nom, il a admis qu'il avait travaillé très très dur pour donner une bonne image de Trump, pour l'argent qu'il avait reçu, pour faire le nègre de ce livre de Donald Trump. Et malgré ses tentatives de donner une bonne image de Trump, il paraissait tout de même comme quelqu'un d'odieux, de haïssable. Et j'avais lu aussi dans les journaux à quel point c'était un propriétaire impitoyable à New York. Comment il poussait les locataires hors d'immeubles qu'il voulait moderniser pour en tirer plus d'argent. Un propriétaire horrible.
Est-ce que vous vous doutiez un instant qu'il deviendrait président de la République ?
No idea.
Pas du tout. Pas du tout. Il se mettait déjà en avant dans les médias à la fin des années 80. Il s'efforçait d'établir une présence médiatique. Il était visible. Il passait déjà à la télé, des trucs comme ça. Il était tellement odieux, tellement haïssable. Ça m'a donné envie de le ridiculiser dans mes planches. Quand il s'est présenté à la présidence en 2016, cette BD de Trump que j'avais dessinée s'est retrouvée à travers tout l'Internet américain.
Et on vous a encore accusé d'être visionnaire.
Parce que c'était sur l'Internet et qu'il était candidat à la présidence. Je crois qu'ils ont commencé à me pourchasser parce que il y avait un quotidien de New York, le New York Observer. Ils ont envoyé un type m'interviewer, un journaliste de New York Observer, qui a écrit un très méchant article sur moi, le pire qu'on ait jamais écrit à mon sujet. Et j'ai découvert que le New York Observer, parce que j'avais fait une enquête à ce sujet, que ce journal était la propriété de Jared Kushner, et que le rédacteur en chef de ce journal était un bon copain de Jared Kushner.
En vrai, Robert, comme vous en fichez, comment vous regardez l'Amérique d'aujourd'hui ?
Mais j'ai encore beaucoup d'amis aux États-Unis. J'y vais régulièrement. Tous les gens que je connais aux États-Unis, mes amis, sont tellement stressés par ce qui s'y produit actuellement. Un de mes très bons amis, Thierry Zwagoff, qui a fait un documentaire sur moi, parlait même de déménager au Canada. Il a vérifié tout ça. C'est très compliqué. Il est âgé. Il a beaucoup de trucs. Les gens sont très inquiets de ce qui pourrait arriver. On se dirige vers une sorte d'État entreprise fasciste. C'est très prégnant là-bas.
Alors c'est intéressant parce que dans Maud O'Day, cette série que vous avez publiée publié dans les années 80, il n'est pas encore question de Donald Trump vraiment, mais de Ronald Reagan. Quel lien d'ailleurs est-ce que vous faites entre Reagan et Trump? Qu'est-ce qui semble les réunir?
Ça a commencé à l'ère de Reagan, les années 80. C'était pas une bonne décennie pour les États-Unis. C'était pas bon. Il y a eu Reagan, et ils ont immédiatement commencé à détruire tout ce qui avait été mis en place pour empêcher le monde de la finance de devenir fou. Tout s'est brisé sur Reagan. Ils ont tout abattu.
Et alors, du coup, en quoi Maud O'Day, ce personnage de jeune femme arrogante qui rêve d'être mannequin à New York, ne jure que par les milieux branchés et les partis progressistes, est-elle une incarnation de cette époque, Robert Crumb?
Mais tout à fait. C'était la montée des yuppies. Et les yuppies étaient des anti-hippies. Ils sont remis à remettre l'accent sur l'importance de l'argent, à avoir l'argent insolent, à vouloir de l'argent, de l'argent. Je me souviens de ce couple que j'ai placé dans une des planches de Maud O'Day, ce couple que Terry connaissait. C'est yuppies, cette bonne femme. Elle avait collé des billets de $100 sur son sapin de Noël. Ce truc, l'argent, la finance dans les années 80, et ils se shootaient tous à la cocaïne, ça les rendait tous odieux. Je connaissais les femmes comme celles que connaissait Maud O'Day, beaucoup. Et elle, elle est un mélange de beaucoup de femmes que j'ai connues à l'époque. Tellement odieuse.
Et il y a toute cette réflexion aussi sur le branché. Branché, vous l'étiez, vous, Aircrumb?
Non.
Je dirigeais le magazine Weirdo. J'étais vraiment pas dans le vent. C'était très marginal. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. On vivait très simplement avec Aline et moi, à cette époque, dans les années 80. Horrible. En partie, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons déménagé en France. C'est qu'à la fin des années 80, j'étais tellement dégoûté des États-Unis. Et puis les années 80, c'est aussi la montée de toutes ces histoires de sida. Les années 80, ça a vraiment été une décennie lugubre aux États-Unis.
Dans Modelé, le monde semble divisé entre les supposés branchés d'un côté, puis les losers de l'autre. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est être un loser pour vous?
Être un loser? Aux États-Unis, c'est simplement une question d'argent. Du succès que vous avez avec le sexe opposé. Des trucs de ce genre-là, quoi. Quand vous êtes impliqué dans une activité culturelle marginale qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, la BD dans les années 80... Aujourd'hui, la BD, c'est beaucoup plus chic, mais dans les années 80, c'était beaucoup plus marginal. Mais aujourd'hui, à cause de l'industrie du film, Marvel Studios, c'est devenu la plus grosse machine à sous du cinéma au monde. Et la BD, c'est la chasse à la BD pour trouver des idées pour ces gros films à $1 milliard. Donc la BD, c'est chic aujourd'hui. Mais à l'époque, la BD, c'était perdu d'avance. Personne ne s'enrichissait avec une BD. Personne.
Ça doit être un peu étrange comme sentiment, Robert Crumb, d'être devenu si culte, compte tenu de ce que vous venez juste de dire.
C'est très dingue. C'est tellement bizarre. Je ne sais pas comment le prendre. Soit les gens aiment mon travail, soit ils le détestent. Il y a beaucoup de haine contre mon travail là-bas. Et je peux le comprendre. Mon œuvre est pleine de violences folles, d'images racistes, des trucs comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai beaucoup réfléchi à cette haine et cette indignation des gens qui veulent réévaluer ce qu'est mon œuvre. Des jeunes de la génération du millénaire qui veulent réévaluer la valeur de mon œuvre. Parce qu'à première vue, ça a l'air très misogyne et raciste, et blablabla. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'ai fait. C'est même pas mon boulot d'expliquer pourquoi je l'ai fait. Je suis un artiste. Je n'ai pas à m'expliquer. Soit on me publie, soit on ne me publie pas. Je ne sais pas, moi.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les losers, en l'occurrence, dans Maud O'Day, mais plus généralement dans votre travail, souvent, vous ne leur donnez pas des traits humains, mais des traits d'animaux. Et je me pose la question, quel genre d'animal est-ce que vous êtes?
Je suis un rat ou un bouc. J'ai les caractéristiques du rat et des caractéristiques du bouc.
Alors, qu'est-ce que ce serait les qualités d'un rat et les qualités d'une chèvre?
Les rats, où vivent-ils? Ils vivent dans les égouts, ils vivent dans des lieux souterrains, ils vivent dans des cachettes, et ils sortent pour attraper un petit truc à manger, et ils battent en retraite dans leur trou. Une partie de moi, c'est comme ça. Et le bouc, il n'est pas particulièrement attirant ou romantique comme animal, mais là, ce truc sexuel particulièrement puissant.
Nous y voilà, parce qu'évidemment, je vous lance sur l'anthropomorphisme, je pense à Fritz the Cat, ce personnage de cartoon qui vous a fait connaître au milieu des années 60 et qui a fait plus d'une fois scandale, Robert Crumb. Quand est-ce que vous avez compris qu'il était facile de choquer le public ?
À la fin des années 60, j'étais impliqué avec des gens comme S. Clay Wilson et d'autres artistes qui laissaient tout flotter, ils laissaient flotter les rubans, n'importe quel truc dingue qui leur passait par la tête, et ils tiraient plaisir de savoir qu'ils choquaient ces sensibilités bourgeoises comme il faut. Quand on est jeune, vous savez, c'est comme le punk rock. Le punk rock, c'est tout ce qui choque la sensibilité bourgeoise.
Mais vous, qu'est-ce qui vous choque ?
Beaucoup de choses me choquent. Hier, quelqu'un m'a envoyé, Thierry Zouagoff m'a envoyé ce rapport sur le réchauffement climatique. C'était absolument choquant, absolument choquant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer. Des perversions sexuelles, ça ne me choque pas vraiment.
Plus important, effectivement, que la question sexuelle, celle qui nous choque dans cette émission, c'est la culture et son actualité. Exhibo, porno et bobo. Oh, que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
Innanzitutto volevo intanto ringraziare tutti gli amici che oggi sono arrivati qua e che ho visto ben volentieri.
Gilberto Les Benetton, l'industriel et fondateur de la marque de vêtements portant son nom, est mort hier à Trévise. Il avait 77 ans, c'est avec ses frères et sœurs qu'il avait monté dès 1965 l'entreprise de petits pulls en maille colorée, devenue grâce à des campagnes de pub choc, un véritable empire du textile. Son décès intervient quelques mois après celui de son frère cadet, Carlo, et quelques jours seulement après la nomination de Jean-Charles de Castelbajac à la tête de la création de la maison. Ciao, Gilberto.
Je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui, très fière d'avoir été choisie.
La France impériale, les lauréats des Premium Imperiales 2018, genre de Nobel des Arts, sont aujourd'hui à Tokyo pour recevoir un diplôme, une médaille et un gros chèque des mains du prince Hitachi, frère cadet de l'empereur. Et parmi les 5 heureux gagnants, on compte pas moins de 3 Français, le peintre franco-belge Pierre Alechinski, l'architecte Christian de Porzampar et l'impériale Catherine Deneuve, Cocorico Alligato.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Ou pas. Grâce à la tomate Mallet à la banane, le jeune journaliste Jean-Baptiste Mallet a remporté hier le prix Albert Londres du livre 2018 pour l'Empire de l'or rouge, enquête à succès sur l'industrie mondiale de la tomate parue chez Fayard. La cérémonie de remise des prix, qui a aussi vu le sacre de la journaliste Élise Vincent du Monde, a symboliquement eu lieu à Istanbul en soutien aux journalistes turcs persécutés par les autorités. Respect. Et la FIAC, tout à trac, la 45e édition de la Foire internationale d'art contemporain qui s'est tenue ce week-end à Paris s'est clos sur un bilan positif. C'est près de 72 500 visiteurs qui sont venus se balader sur les 195 galeries exposées au Grand Palais. Côté marché, les professionnels sont ravis d'avoir évité une explosion des prix, renouant ainsi avec la grande tradition qui veut que les prix des foires soient inférieurs à ceux du second marché des ventes publiques. Ça, c'est chic. L'auteur et dessinateur américain culte Robert Crumb, invité de Boomerang ce matin, et ce que beaucoup d'auditeurs ignorent certainement, effectivement, c'est que vous vivez en France depuis plus de 20 ans. Pourquoi avoir choisi la France ? Est-ce que vous l'avez choisi vous-même ?
C'est ma femme qui a choisi la France. Ma femme, c'est elle. Elle ne cessait de me vanter la France. Elle vient d'une famille de commerciaux qui savent vendre. Et un matin, en me réveillant, je vivais en France. Mais comment est-ce arrivé ?
Est-ce que vous aimez les artistes français ? Quand vous pensez à des artistes français, plus particulièrement à des peintres, vous pensez à qui ?
Monet, Lautrec. J'aime les expressionnistes allemands. Et les Français n'étaient pas très présents dans ce mouvement dans les années 20 et 30. Je ne sais pas où ils étaient, les Français, à l'époque. Alors que tous ces artistes expressionnistes venaient à Paris se réfugier de la folie de l'Allemagne. Mais les Français, ils n'étaient pas présents. Et en ce qui concerne la BD française, j'en aime peu, pas beaucoup. Mon dessinateur préféré est ce type, David Sourdrille. Vous connaissez son travail ? Il est génial, ce type est génial. Et il a la même sensibilité que moi vis-à-vis des femmes, et ça, ça aide. Il dessine admirablement bien, et c'est drôle.
Où est-ce que vous avez grandi, vous, Robert Crumb ?
À travers tous les États-Unis. Mon père était dans l'armée. Il était muté ça et là.
Et votre découverte du dessin, elle s'est faite comment ? Je crois que les films de Disney ont eu sur vous une influence déterminante.
Enfant, les films de Disney, c'était très puissant. Alice au Pays des Merveilles. C'était, je crois, le dernier grand film d'animation de Disney. Après ça, ça a décliné. C'est devenu trop industriel après ça. Alice au Pays des Merveilles fait encore preuve de beaucoup d'imagination, de créativité. Après ça, c'est trop industriel.
Vous l'avez encore en vous, cette émotion, cette imagination d'enfant, Robert Crumb?
Mais je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant et c'est très dur de vivre dans un monde quand vous êtes un enfant adulte. On devient impliqué dans des trucs, des affaires. Je suis constamment escroqué par des hommes d'affaires qui veulent profiter de moi. J'ai appris à accepter ça. Bon, ils vont prendre leur part. Je sais, ce sont des hommes d'argent. Je peux pas me battre contre eux. Je peux pas me battre contre ces mecs-là.
Moi, j'aimerais bien que vous vous penchiez sur un film de Disney et que vous le fassiez à votre manière. La Reine des Neiges façon Robert Crumb, ça serait quoi?
On m'a beaucoup demandé de faire des films d'animation depuis ce film Fritz le Cat. Je réponds simplement non, parce que pour faire un film de long métrage d'animation à la Disney, il faut impliquer des centaines de personnes, 100 animateurs, des scénaristes magistes, des patins couffins. Je peux pas m'y mettre tout seul. Je connais cette femme qui a fait toute seule un film d'animation. Ça lui a pris 10 ans pour faire 9 minutes d'animation. Elle a tout fait toute seule, chaque image. C'est merveilleux. Mais 10 ans, je vais pas faire un truc comme ça. J'y pense même plus à l'animation. Beaucoup de gens m'ont proposé. Ah, ça serait super de faire un film d'animation de Mr. Natural. Réfléchis, ce serait super. Ouais, mais ça coûte tellement cher qu'il faudrait le faire avec des gens d'argent. Et les gens d'argent vont te dire, ah, il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça comme ça. Mais non, il faudrait se battre contre eux, argumenter pour chaque seconde d'image. Chaque seconde serait une bagarre.
Quand est-ce que vous avez compris, Robert Crumb, que vous étiez un rebelle?
Je ne me considérais pas tant comme un rebelle que comme étant ailleurs, un étranger. Depuis l'âge de 12 ou 13 ans, je me voyais dingo, cérébralement infirme, incompétent dans ce monde, socialement inadapté, idiot. Je me prends dans mes propres pieds, j'arrive à peine à fermer mes lacets. Je peux rien faire d'autre que dessiner. C'est tout ce que je sais faire. Si je pouvais pas dessiner, je sais pas ce que je ferais. Je travaillerais à la poste, je sais pas quoi.
Mais c'est intéressant parce que comme beaucoup de jeunes gens de votre génération, vous êtes devenu hippie, vous vous êtes installé à San Francisco dans les années 60 et vous êtes devenu un membre à part entière de ce qu'on a appelé plus tard la contre-culture. Est-ce que ça a au moins un sens pour vous, ce mot?
Ça en avait un dans les années 60, c'est sûr. Et j'en faisais vraiment partie. Et j'ai commencé à m'impliquer avec des types comme ça, comme S. Clay Wilson et les autres dessinateurs underground, qui eux se considéraient vraiment comme des rebelles, comme Spain Rodriguez. Lui, c'était un motard hors la loi. Un grand artiste, un grand dessinateur de BD. On a créé Zap Comics, et je me suis totalement engagé avec ces types comme Robert Williams, S. Clay Wilson, Spain, et eux ressemblaient à un groupe de rock rebelles. Eux, c'était vraiment la contre-culture, ouais. Et on a commencé à réfléchir à la révolution, contre le gouvernement, des trucs comme ça. Et moi, je croyais à tout ça, à la révolution. Hein.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces années-là?
C'était toute une époque, j'étais jeune. C'était marrant d'aller à des manifs et des bagarres avec la police, échapper aux lacrymos, c'était enthousiasmant. Parfois, quelqu'un était blessé. C'était choquant de voir, en fait, la police jeter par terre des jolies filles hippies, leur grimper dessus, appuyer leur tonfa sur la gorge et leur crier « T'es dingue !» J'ai vu ça.
Vous savez quoi, moi j'ai envie qu'on s'y replonge dans ces années 60, pas forcément la scène que vous venez de décrire, mais plutôt un peu de douceur avec Tommy James and the Chandelles, Crimson.
Ah ouais, mon préféré, Tommy James et les Chandelles.
Crimson Clover.
Over and over.
1968, vous êtes sur France Inter avec Robert Crumb. Vous écoutez Vous Manque. Come walking over.
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est beaucoup moins effrayant que lorsqu'il se dessine, ça c'est certain. Il est pas très grand, frêle comme un bébé flamant rose, bien habillé, bien peigné sous sa casquette ce matin, bien sous tout rapport. Petite lunette qui masque un drôle de regard en coin. Impossible de savoir quelle drôle d'idée il peut avoir derrière la tête. J'ose même pas imaginer à mon sujet, avec son pantalon en velours un peu trop large, remonté bien haut et sa chemise en jean. L'auteur de bande dessinée, Robert Crumb, invité de Boomerang ce matin pour parler de dessin mais aussi de musique. Parce que vous êtes musicien, Robert, il ne s'agirait pas de l'oublier. Vous jouez de la mandoline, je crois.
Mandoline, banjo, guitar, ukulele.
Mais depuis quand ?
Depuis l'âge de 12 ans. J'essayais de fabriquer mon propre ukulélé quand j'étais enfant, avec une boîte à cigares. Mais ça ne jouait pas bien, c'était très frustrant. Et ma mère avait regardé ça, et pour Noël, elle m'a dégoté un ukulélé en plastique.
Est-ce que jouer de la musique ou en écouter, c'était indissociable du fait de pratiquer le dessin ?
Ça a à voir avec un certain niveau de culture populaire. La BD et le genre de musique que j'aime viennent du même niveau de culture populaire. La culture populaire moderne, c'est plus la même chose. C'est beaucoup plus industrialisé.
Alors quel genre de musique à l'époque ?
Depuis mon enfance, parce que j'étais autiste ou quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai toujours été attiré par la musique et les films anciens que je voyais à la télé, la musique des années 30, le début des films parlants. Et où pouvais-je trouver cette musique ? C'était pas enregistré sur des disques modernes. Et j'ai découvert les 78 tours. Toute cette musique était là sur les 78 tours. J'ai découvert ça quand j'avais 16 ans.
C'est vrai que vous parlez d'un âge d'or de la musique à chaque fois que vous parlez de la musique des années 20 ou des années 30. Et je me pose la question, quel serait l'âge d'or de la bande dessinée pour vous ? Ce serait quoi ? Ce serait quand ?
Il y a eu l'âge d'or de la BD classique, c'était les années 40 et le début des années 50. Et puis la télé est entrée en concurrence avec la BD, et c'était le déclin de la BD. Je l'ai vu quand j'étais enfant, le déclin de la BD en Amérique au long des années 50. Je le voyais sous mes yeux, mois après mois, avec un travail artistique et des scénarios de moindre qualité. C'était un déclin radical. Et puis il y a eu un retour dans les années 60 avec Marvel et DC et les super-héros. Mais ça ne m'intéressait pas tout ça. Moi j'aimais bien la BD humoristique, la BD d'animaux, des trucs comme ça.
Vous pensez à qui ?
La petite Lulu, Donald Duck, Karl Barks, le plus grand narrateur.
Évidemment, je vous pose la question, Robert Crumb, parce qu'on parle souvent de vous comme l'un des auteurs qui a révolutionné l'art de la BD. Et je me pose la question, en quoi votre approche du dessin et de la BD ont-ils influencé d'autres artistes, à votre avis ?
C'est marrant parce que quand j'ai commencé Zap Comics à la fin des années 60, quand ça commençait à être reconnu, les gens pensaient que je devais être un vieux, parce que mon style avait l'air d'être un style plus ancien. En fait, à cause du LSD, j'avais cette vision du style ancien de la BD, profondément ancré dans la culture. Et pourtant, en l'utilisant pour dire quelque chose de nouveau, quelque chose de psychédélique, tout ça, c'était des années 60. Et ça a marché, ça a pris avec les gens de ma génération, avec d'autres personnes qui prenaient du LSD, évidemment. Et donc, utiliser la bande dessinée, les compétences en BD pour exprimer cette expérience psychédélique.
Puis montrer aussi que les possibilités formelles étaient bien plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer. Alors vous dites grâce à la drogue, moi je pense que c'est pas seulement la drogue quand même.
Absolument, ouais. Ce style est tellement enraciné dans la conscience collective, de la BD qui remonte à Mutt et Jeff dans les années 20, Snuff et Smith, Popeye. J'aime ces trucs des années 20 et 30, ce style. Les gens appellent ça le style Bigfoot, les grands pieds avec des grosses godasses. Difficile de caractériser ça avec précision.
Jamais vous ne vous êtes senti contraint dans votre art ?
Au début des années 70, c'était vraiment le grand défouloir. J'étais tellement pas contraint que ça me faisait peur. Je me faisais peur moi-même. La violence, les perversions sexuelles, les choses les plus folles nichées dans mon cerveau. Je laissais tout sortir. Ces images racistes et tous ces trucs-là, ça bouillonnait en moi. Et j'étais tellement en syntonie avec la conscience collective à cause du LSD. Je pensais pas qu'il s'agissait seulement de moi. C'est toute la culture que je révélais. Des trucs sexuels, ouais. Ouais, ça, c'était mon truc à moi, plus personnel. Je me défoulais au point où je me posais la question, mais pourquoi tu fais ça ? Qui va lire ces trucs-là ? Qui va aimer ça ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je comprenais même pas pourquoi je le faisais. Et ça m'effrayait, genre. Mais les gens étaient prêts à le publier, et ça m'a amené à l'état d'emmerde, un gros tir de barrage, des féministes, et tous ces trucs-là.
Vous en avez encore de plus en plus, peut-être?
Oh, maintenant, c'est encore pire. Il y a toute cette nouvelle vague des jeunes du millénium, le mouvement MeToo et tutti quanti. Ils me vomissent à travers tout l'Internet des États-Unis. On m'appelle pervers, misogyne, prédateur sexuel en série.
Vous en dites quoi?
Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ces trucs-là. Je me contente de hausser les épaules et ouvrir les mains. Je ne sais pas quoi leur dire. Je ne peux pas. Je peux pas la défendre. Je ne pense même pas que je doive la défendre.
Ça veut dire que l'artiste doit être absolument libre pour vous?
Ça dépend. Doit être. Je ne sais pas. Oui, vous pouvez vous mettre dans votre chambre, faire ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, le mettre sur papier, sur toile. Et si les gens pensent que c'est trop moche pour être regardé, ben tant pis pour vous. Oui, on peut être totalement libre chez soi à faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le monde aime ça obligatoirement. On ne peut pas l'imposer au monde, le forcer. Si les gens sont curieux, intrigués et veulent voir, alors oui, super. Pourrait même éventuellement en vivre, en tirer un peu d'argent, peut-être, mais ne vous y attendez pas. Si vous voulez une liberté totale, c'est un risque. Et si vous voulez faire beaucoup d'argent, peut-être qu'il faudra faire un peu des compromis. Quand j'ai travaillé pour le New Yorker, Aline et moi, on a fait des compromis. On savait qu'on ne pouvait pas montrer les bites, les chattes. Il fallait restreindre un peu notre folie.
En vrai, Robert Crumb, entre nous, quelles angoisses est-ce que vous tentez d'apaiser en dessinant?
Ah, c'est une question très compliquée. Il y a tellement d'angoisses, tellement d'angoisses à apaiser. On ne peut pas toutes les apaiser, mais il y a une chose qui donne du sens à votre vie. C'est de faire quelque chose, ne pas être seulement en train de dériver, mais de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre, un travail de merde dont on ne comprend même pas l'intérêt, à être assis devant un ordinateur, à tapoter le clavier. Et des tas de gens comme ça, j'ai de la peine pour eux. C'est leur boulot, c'est ce qu'ils font pour vivre. Et moi, je suis tellement reconnaissant. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé ce truc que je peux faire, d'être fidèle à moi-même, de pouvoir en vivre, et même plutôt bien. J'ai eu tellement de chance. J'ai du mal à croire à ma bonne étoile.
Vous dessinez toujours vos rêves?
De temps en temps, oui. Pas autant qu'autrefois. En fait, je viens de publier tout un bouquin... Mon journal rêvé. Ces jeunes mecs aux États-Unis m'ont persuadé de le faire. Ah, faisons un livre de vos rêves. Parce que j'ai noté des centaines de mes rêves. Encore une fois, c'est une façon de m'exposer, de me montrer, de me livrer à ces gens qui veulent me qualifier de pervers, de dingo, de dire « Ah, regardez ces perversions sexuelles dont vous vous repaissez, vous êtes horrible !» Se livrer à ça, si vous êtes honnête, ben c'est comme l'a dit un jour Groucho Marx, « Si on était tous honnêtes, on serait tous en prison. »
Merci infiniment, Robert Crumb, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Vous n'imaginez pas l'émotion que c'est pour moi. Et merci à votre interprète ce matin, le tout aussi culte Michel Zlotowski. Je rappelle que Maud O'Day est publié aux éditions Cornelius dans une traduction de Jean-Pierre Mercier pour le texte. Et comme j'invite tous les auditeurs à se replonger dans l'intégrale de votre œuvre de Fritz the Cat à la Genèse, en passant par Mr. Natural, ou même peut-être surtout les livres que vous consacrez à vous-même, je pense à Crumb notamment.